Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Le Positive Morning jusqu'à 10h avec donc notre invité comme promis, Patrick Makovka. Il est jardinier, il est avec nous jusqu'à 10h. Ça va Patrick?
Très bien, bonjour à toutes et à tous.
Alors, et ben voilà, on continue ensemble.
Oui, on va parler de quoi alors ce matin, grosso modo? On va prendre les questions des auditeurs et auditrices, mais on va parler de jardin dans cette période d'automne.
Oui, on va parler des jardinières qu'il nous faudrait peut-être envisager de remplacer. Celles d'été ont bien souffert et maintenant on va s'atteler à penser à nos potées et nos jardinières fleuries d'automne et d'hiver. Ça dure bien longtemps tout ça. Nous parlerons aussi des arbres fruitiers et on va commencer par tout ce qui est sympathique, hein, framboisier, cassis, groseille. Et puis on finira par les pommiers, poiriers, pruniers et abricotiers. Puis j'en ai certainement.
De quoi se faire une bonne petite salade de fruits.
Voilà, joli. Nous parlerons aussi d'un ouvrage,
un livre.
D'une curiosité.
Curiosité.
Patrick Makovka est avec nous jusqu'à 10h. Il est jardinier, c'est donc le moment de parler...
Jardin.
Bah oui, forcément. Merci de suivre. Et alors, c'est ma première question. Patrick, on est au mois d'octobre, on commence le mois d'octobre. Il ne se passe plus rien là au jardin, il y a tout qui est au point mort, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots.
Jadis, nos anciens disaient que c'est justement l'époque où il fallait s'atteler à jardiner. Alors aujourd'hui, on vit avec notre époque, on est un peu, on consomme au fur et à mesure. Mais j'ai quand même envie de dire que là, dans le jardin, aujourd'hui, on peut s'atteler à planter et à envisager des arbres fruitiers. Et on va commencer par, pour les plus gourmands d'entre nous, les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers, les myrtilliers.
C'est maintenant que ça se plante.
C'est maintenant qu'on va pouvoir s'attacher à les planter parce que, comme je le dis souvent, pendant l'hiver, les végétaux n'ont qu'une chose à faire, des racines. Et ça, c'est un gain de temps phénoménal et on peut considérer qu'au printemps, on mangera quelques framboises, quelques cassis et quelques groseilles. Pas énormément parce que l'arbre ne sera pas arrivé à maturité. Mais grosso modo, envisagez ça et les enfants apprécieront beaucoup, enfin petits et grands, hein, y a pas de problème.
Mais les grands enfants aussi.
Oui. Les petits fruits rouges, faut y aller, c'est le moment.
Hein. Alors, on va rentrer dans le détail. Hein. Comment choisir selon ce qu'on a envie de manger, bien entendu. Il y a peut-être des sortes d'arbres qui sont plus arbres fruitiers, qui sont plus faciles à entretenir ou qui donnent plus de fruits que d'autres. Alors, comment ça fonctionne? Comment on choisit si on ne sait pas quoi prendre?
C'est d'abord une question de goût.
Oui.
C'est la cote amoureuse d'un petit fruit. La framboise est imbattable à ce sujet. Maintenant, les cassis et les groseilles sont pas mal non plus hein, pour les tartes. Enfin, moi, je les apprécie beaucoup en tarte, en confiture, évidemment. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui est un peu moins connu, on va parler des caseilles, on va parler des
croiseilles.
Ouais, c'est un cassis groseille, mais un croisement. Et c'est pas de la manipulation génétique.
Hein, en plus, ça existe vraiment.
Oui, il y a un croisement entre une mûre et une framboise. C'est pas mal non plus aussi.
Mûre froise, alors, ça s'appelle comment du coup?
Les Anglais appellent ça Tyberry.
Et donc,
il y a quand même... c'est d'abord, je pense que c'est le bonheur d'envisager de consommer qui va faire que l'on va le choisir tel ou tel fruit. C'est une question de goût. Hein.
Pardonnez ma question bête, mais juste par rapport à ces fruits-là croisés, alors moi j'en ai pas entendu parler jusqu'à présent personnellement, ce sont des choses qu'on trouve en Europe?
Bien sûr, ah oui.
D'accord.
Les Anglais sont de bons obtenteurs pour ça. Et puis bon, en France, on n'est pas les derniers non plus. On aime bien, on invente et on croise, il n'y a pas de problème.
Alors, question, comment on fait concrètement? Est-ce que c'est aussi, quand on doit choisir l'arbre, l'ensoleillement qu'on peut avoir dans son jardin, ou dans des petits, des grands jardins? On commence par quoi? Après préparer la terre, par faire un trou? Comment ça
alors,
se passe?
Alors, on va préparer le sol, on fait un petit trou de 30-40 cm de diamètre. Et pour chacun de ces trous, on y mettra à 40 ou 50 cm les uns des autres, des framboisiers par exemple. Ou un peu plus espacé, des cassis, des groseilles. Tiens, j'ai oublié le groseillier à macro, hein, c'est quelque chose qui est quand même bien sympathique.
Donc qui n'est pas un groseillier pour les poissons.
Un macro, oui, ou pour les...
Bref. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Merci d'être avec nous dans le Positive Morning. Jusqu'à 10h, nous parlons plantes qui vont bien, plantes qui vont mal. Nous parlons aussi jardin. Nathanaël, avec Patrick Makovka, qui est donc notre invité, qui est jardinier, on a commencé à aborder le thème des petits arbres fruitiers, donc tout ce qui est framboisier, cassis aussi. Et on peut peut-être passer aux gros arbres fruitiers. Il se passe quelque chose pour eux en octobre?
Oui, aussi, bien évidemment. Alors là, on va peut-être s'adresser à des jardins un peu plus grands.
Forcément,
parce que framboisier, cassis, ça prend pas beaucoup de place. C'est presque envisageable sur un balcon, c'est vous dire. Mais là, pour pommier, poirier, etc., selon la forme, gobelet ou demi-tige, on s'adresse à des jardins d'au minimum 3-4 arts, dans lesquels on va pouvoir en mettre un ou deux. Et là, effectivement, on passe à un autre stade de production, un autre espace. Et on n'est pas moins gourmand, hein, parce que des pommiers, il y a d'excellentes variétés qui sont extraordinairement bonnes. pommes, prunes, poires, et j'en passe. Mmh.
Donc on peut les planter en octobre,
un pommier ou un poirier. On peut les planter en octobre, et puis comme je le dis toujours, on se rapproche de cette période qui est si propice aux plantations, qui est la
Sainte-Catherine, voilà. Tout bois pour racine. Alors j'ai une question à vous poser, Patrick, parce que quand on dit donc planter, qu'est-ce qu'on plante exactement? Qu'est-ce qui est en jardinerie par exemple, ou qu'est-ce qu'on choisit comme arbre? Une hauteur spécifique?
Voilà, alors
qu'est-ce qu'il faut faire?
Vous avez en jardinerie, vous allez trouver deux types d'arbres, trois éventuellement, mais deux. On a des gobelets, ce sont des arbres dont la couronne va démarrer à peu près à 60-80 cm du sol, donc ça va déterminer un arbre de 3-4 mètres de haut. Et des demi-tiges, alors les demi-tiges, la couronne, donc les premières branches qui partent pour former l'arbre, vont se trouver aux alentours d'un mètre 20, 1 mètre 30. Et ça détermine un arbre de 6 mètres en moyenne, selon les espèces. Un poirier peut aller plus haut qu'un pommier. Mais bon, grosso modo, ça donne ça. Ça veut dire qu'il y a un rayon à respecter, une circonférence, et qu'il faut alors planter tout ça à bonne distance. Voilà, et on les trouve sous forme de racines nues, c'est de plus en plus rare, c'est évidemment moins cher, mais surtout maintenant en conteneur, c'est-à-dire que c'est une plante qui est en pot, qui a poussé dans le pot, le système racinaire est bien préservé dans le pot, et il suffit de planter en conséquence dans un bon trou avec un bon terreau, un bon tuteur, c'est très important le tuteur, et puis après on fertilise un petit peu et c'est parti, hein. Arrosage évidemment.
Arrosage, même pendant l'hiver.
Surtout pendant l'hiver, histoire d'éliminer les poches d'air pour que les racines puissent trouver matière à se développer et qu'elles ne se retrouvent pas en présence de poches d'air, littéralement.
Alors ces arbres, on le disait, on va les planter maintenant. Est-ce qu'on va avoir des fruits tout de suite là pour le printemps?
Non, parce que vous pouvez avoir une prune ou deux éventuellement, mais on forme la couronne. C'est-à-dire qu'on va les tailler. On va les tailler pour former la charpente. Et cette charpente va porter les branches qui porteront les branches pour avoir des fruits en 2020, 2021, 2022.
D'accord. Ah, donc
mais
un peu de patience.
Pas pour 2019. Là, on demandera un peu de patience, mais un fruitier, c'est de la patience parce que ça va. C'est intergénérationnel, on va avoir des fruits. Peut-être avez-vous déjà mangé les pommes que papy avait plantées.
Oui, oui. Voilà,
c'est quoi justement la durée de vie d'un pommier ou d'un poirier environ?
Ça peut être centenaire. Globalement, ça s'arrête avant, mais ça peut être centenaire.
Alors, j'ai tapé jardinière automne sur internet et je suis tombé sur donc plusieurs propositions. Ça fait un peu
ça fait mamie. C'est ce qu'il a dit,
ouais,
il ose pas le dire, mais il a dit ça
oui mais en même temps moi j'aime. Allez, je vais faire un parallèle. J'aime bien le nom de votre émission, c'est Positive Morning.
Oui. Mm-hmm.
Et moi, je me dis que le matin, quand j'ouvre mes volets, quand je vois des belles jardinières pendant tout l'hiver, où globalement les journées sont tristes, elles sont courtes parce que la nuit tombe de plus en plus vite. Eh ben, quand j'ouvre mes volets, je tombe sur mes jardinières d'hiver dans lesquelles il y a plein de plantes différentes, colorées, qui peuvent effectivement à un moment ou à un autre appeler les mamies parce que dedans vous aurez mis une pensée, parce que vous aurez mis peut-être un chrysanthème, et ça je vous le concède, ça peut faire
ce parallèle,
c'est le choix des fleurs, mais il y a plein d'autres possibilités, et moi je vais vous proposer là une jardinière pour 20-25 euros,
dans laquelle
on va pouvoir mettre des plantes différentes, et on va essayer de rajeunir un peu le concept, parce que les jardinières d'hiver c'est vraiment génial, la plupart des plantes que vous allez y mettre sont récupérables au printemps prochain.
Ah super. Alors on y va tout de suite,
cool,
on donne quelques idées.
Voilà, quelques idées. Alors je considère que vous avez la jardinière, mais si vous ne l'avez pas, une jardinière de 50 cm de fabrication européenne, française, c'est environ 5 euros, 50 cm.
Quel type alors? C'est parce que de jardinière,
on peut avoir des plastiques? Elle est en plastique, elle est souvent fabriquée dans la vallée de l'Ain, du côté d'Oyonnax, qui est l'endroit où on fabrique toutes nos matières plastiques en France et en Europe. Allez, on va mettre un arbuste assez haut, effilé, c'est un petit conifère qui s'appelle l'Elwoody, Chamaïs séparis Elwoody, ça coûte à peu près 2 euros quand il fait 15 cm de haut, et ça va vous donner un peu de hauteur. Si on vous met de la hauteur dans une jardinière, il faut mettre une plante qui retombe, alors évidemment on n'a pas les géraniums. C'est l'hiver, ou presque. Donc on va mettre un petit lierre. Le lierre peut être panaché, donc il apportera de la couleur. C'est vrai qu'en termes de fleurs, ça coince un peu parce qu'on a moins de choix qu'en été. Mais on va trouver des trucs. On va mettre... attendez, il y a le terreau, hein. Nathaniel, tu me l'as pas dit ça.
Non, c'est vrai, il faut
le terreau. Sinon ça peut pas aller. Hein.
Désolé Patrick.
Le terreau, faut en mettre à peu près pour 3-4 euros. Hein. Vous prenez un sac de 20-30 litres, vous divisez ça. Il en faut 8 litres pour une jardinière de 5 ans, donc ça devrait aller. Une bruyère, parce que la bruyère, la Kaluna en tout cas, elle est vivace, elle est florifère pendant très longtemps. Je pense qu'au printemps, quand vous allez la sortir, elle sera encore en fleurs. Donc c'est vraiment sympathique. Ça peut être rose, blanc ou rouge. Alors là, c'est mon petit truc pour rajeunir un peu le concept.
Ouais.
Mettez des bulbes. Alors évidemment, d'accord, on met des bulbes, mais ça ne fleurit pas maintenant.
Bah oui.
Non, ça ne fleurit pas maintenant, mais ça va fleurir au mois de mars. Mettez quelques narcisses, quelques tulipes, quelques jacinthes. Et alors là, au printemps, c'est une explosion florale, voire même avec du parfum si vous mettez des jacinthes, parce qu'au mois de, mars, avril, ça va sentir. Vous ouvrirez vos jardinières. Non seulement c'est beau, mais en plus, ça sent bon.
Ça, c'est super.
Allez, j'allais oublier un petit chrysanthème quand même pour avoir de la fleur ou un aster, parce que ça aussi, c'est vivace et ça se récupère. Et vous avez une jardinière pour moins de 20 euros qui va vous mettre la patate tous les matins quand vous ouvrez vos volets.
Ah bah voilà.
Mais alors du coup, ce que vous dites par rapport aux fleurs, moi j'entends le mois de mars, est-ce qu'il y a quelque chose qui va quand même sortir fin octobre si je puis dire, ou ça va être que du vert
déjà,
pour le coup?
Bah là, pour avoir la fleur, ce qui est déjà en fleur aujourd'hui, ça sera la bruyère, ça sera le chrysanthème ou l'aster. Vous avez le droit de mettre des pensées, même si ça fait un peu mamie, les pensées sont superbes. Et aujourd'hui, il y a des pensées qui sont super sympas à petites fleurs, qu'on appelle des violas. Et là, il y a des couleurs et des nouvelles variétés très sympathique.
Il fallait en jardinerie, il fallait voir tout ça.
Nathanaël, tu vas aller faire un petit tour dans ta jardinerie favorite ce week-end. On continue jusqu'à 10h sur Phare FM avec Patrick Makovka qui est jardinier, qui est donc notre spécialiste jardin, si je puis dire. Profitez-en pour poser toutes vos questions ce matin. On a déjà abordé pas mal de choses avec vous, Patrick. On a abordé les arbres fruitiers, entre autres. Aussi une jardinière pour moins de combien, 20 ou 25 euros?
Moins de 25 euros.
Moins de 25 euros. Et d'ailleurs, si vous voulez même qu'on vous la redonne, on peut vous la renvoyer par message. Par exemple, si vous n'avez pas tout entendu ce qu'il a dit, on peut vous renvoyer ça par message, je m'y engage.
Exactement. On parle du jardin ou de plantes. Durant cette période d'automne, on va parler d'arrosage, Patrick, parce que cet été a été vraiment très très chaud. On a eu l'habitude d'arroser régulièrement. Là, normalement, on a commencé déjà depuis quelques semaines à limiter l'arrosage pour éviter que la plante ait trop d'eau. Enfin, les plantes aient trop d'eau de façon générale.
Précisez votre question.
En général,
intérieur, extérieur.
Intérieur, les plantes en pot surtout, parce que quand c'est dans le jardin, généralement ça vit à peu près tout seul. Mais les plantes en pot qui sont restées peut-être sur le balcon, sur la terrasse, il faut faire attention à l'arrosage de façon générale et surtout s'il n'y a pas de sous-coupe en dessous, de système
d'écoulement.
D'écoulement,
oui.
Voilà.
Ben écoutez, il pleut toujours pas beaucoup.
Oui, c'est
alors,
vrai.
Selon les régions où nous émettons, c'est parfois très sec. Je sais qu'en Belgique, je pense qu'il y a un état de catastrophe naturelle du côté de... du Brabant ou quelque chose comme ça, il me semble. Donc il faut faire attention. Donc il y a un manque d'eau, donc on continue à arroser nos plantes en pot, parce que malgré tout, même s'il fait moins chaud dans la journée, s'il fait 3 degrés le matin ou 4 degrés parfois, 10 aujourd'hui, eh bien il faut continuer à arroser. Alors les eaux stagnantes, oui, alors ça peut être un problème quand on a une soucoupe et puis qu'on a la main un peu lourde. Et ça, je vais utiliser une image. Quand vous avez la main un peu lourde et que toujours de l'eau stagne dans la soucoupe, moi, je vous mets au défi, vous faites la même chose, je vous demande de porter des bottes pendant 48 heures non-stop et je vous mets de l'eau dans les bottes. Et vous allez voir comment vont être vos pieds. C'est à peu près la même chose qui se passe pour la plante. On a une asphyxie et la plante va finir par passer
mourir.
Le vie à trépas, évidemment. Donc, il faut. La règle que je donne, souvent les clientes n'aiment pas trop, mais je dis salissez-vous les doigts et vérifiez le degré d'humidité de la motte pour savoir s'il y a lieu d'arroser. Parce que selon l'endroit où on se trouve, dans la maison ou dehors, enfin, surtout dans la maison, près d'une fenêtre ou pas, les besoins en eau, la transpiration et l'absorption de l'eau, c'est pas la même chose selon l'endroit où elle se trouve dans la maison, selon la température, le degré d'hygrométrie et le chauffage qu'on va mettre en route bientôt.
C'est pas déjà fait.
Donc il faut salir les doigts et vérifier le degré d'humidité de cette motte.
Je rebondis ce que vous disiez, Patrick, le chauffage se rallume chez certaines. Attention au chauffage avec justement les plantes et peut-être les déplacer.
Alors les déplacer
et la lumière aussi.
Alors les déplacer, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais oui, on va adapter ces arrosages par rapport à ce taux d'humidité de l'air qui va dégringoler littéralement quand on va mettre en route le chauffage. Et là, il y a des systèmes de chauffage qui sont plus desséchants, déshydratants dans la maison que d'autres.
Alors justement, quels sont-ils ceux qui déshydratent plus?
Les chaleurs directes telles d'une cheminée.
Ça
fait tomber directement le taux d'humidité de l'air dans la maison c'est radical. Et là, les plantes. Elles souffrent.
C'est le plus dur pour les plantes, le fait de cheminer.
La cheminée, oui, parce que ça fait un appel, le taux d'humidité baisse,
c'est
littéral. L'un des chauffages les plus faciles à gérer pour les plantes, ça va vous faire sourire, c'est chauffage au sol.
Ah oui.
Les nouveaux chauffages au sol qui sont mis en place depuis 15-20 ans sont relativement doux Et on arrive bien, si on prend le tempo, on arrive bien à gérer ça au niveau des plantes. Évidemment qu'on va faire attention de ne pas mettre une plante à côté d'un radiateur qu'on va se mettre en route, parce que ça, c'est pas bon, qu'il soit électrique ou à bain d'huile, j'en sais rien. Mm-hmm. Il faut éviter, parce que là, effectivement...
Donc tout de même déplacer celles qui sont collées au radiateur.
Voilà, il faut. La radio autrement.
Nathanaël, je crois qu'on a quelqu'un au téléphone d'ailleurs.
Oui, on va voyager direction Marseille. Bonjour Luc.
Oui, bonjour l'équipe.
Et ça va bien ?
Bien, merci.
Alors, ce qui va moins bien par contre, c'est une certaine plante sur le balcon. On vous laisse exposer votre problème.
Oui. Alors effectivement, nous avons un balcon et parfois, donc là c'est arrivé la semaine dernière, des chenilles vertes qui s'invitent, alors qu'on ne les a pas du tout invitées. Hein. Et elles viennent se régaler sur notre... Alors, nous avons un fraisier en pot. Mmh. Donc, c'est un grand pot, hein. Donc, voilà, qui me fait quelques fraises. Et puis, d'autres plantes. Alors, j'ai oublié le nom parce que c'est plutôt ma femme qui s'occupe de ça. Mmh. Une jolie plante qui se développe très bien avec des feuilles vertes et mauves. Voilà, et alors là-dessus, ben voilà, donc toutes les feuilles sont attaquées. Alors, le temps qu'on s'en aperçoive... On a traité ça avec du savon noir liquide, mais comment faire pour éviter qu'elle revienne ou voilà, peut-être quelques conseils d'un professionnel.
Alors Patrick, est-ce que vous avez réussi à trouver cette plante verte avec
des feuilles vertes avec Je vais avoir du mal, Luc. Mais une photo à l'occasion. Mais c'est pas grave. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Les chenilles, pour la plupart, c'est ce que je disais hors antenne, pour la plupart d'entre elles, sont un stade larvaire, intermédiaire, œuf, larve, adulte. Et c'est pour le cas, la plupart des fois, ce sont des papillons. Donc, je dirais que traiter au savon noir, ça peut aider. Le savon noir, c'est un peu compliqué quand même sur des insectes de cette taille-là. Un insecticide bio qui ne serait pas du savon noir est plutôt à utiliser. Après, comment éviter que ça vienne ? Bah, écoutez, il faut chasser les papillons. Moi, prenez un filet. Non, mais je plaisante. Mais sur votre balcon, vous aurez jamais une infestation au point de tout dévorer. Je pense que regardez bien les papillons quand il y en a. En général, c'est là qu'elles viennent pondre parce que l'adresse est certainement bonne. Il y aura des œufs et ensuite la larve, elle se nourrira de ce qu'il y a à manger.
Est-ce qu'il y a des plantes qui attirent plus des larves de papillons, par exemple?
Alors, si je prends le chou, et vous savez, on parle de la pyrite du chou, c'est un papillon jaune. Mmh. Alors, il n'aura pas de chou sur son balcon, je ne pense pas, Luc. Mais voilà, la pyrite du chou porte bien son nom. C'est un petit papillon jaune qui vole en septembre-octobre, enfin août-septembre. Mmh. Et en général, quand on les voit voler, on regarde nos choux et les choux sont infestés de petites larves qui dévorent le cœur du chou. Donc, on a souvent un lien, hein, de cause à effet, ça c'est littéralement la bestiole qui parasite cette plante-là, point.
Alors, autre question, est-ce qu'il y a peut-être des plantes qui peuvent repousser ces larves qu'on pourrait mettre à côté, hein? Une question, parfois ça peut arriver.
Et c'est pas la question est bien posée par Luc, c'est pas la larve qu'il faut empêcher de venir, c'est les papas, maman.
Ah oui, c'est ça.
Donc là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire là, surtout sur un petit univers comme ça. Je pense que sur leur balcon, ils regardent ce qui se passe régulièrement et bon, quand il y a un papillon, regardez un peu lequel c'est peut-être un très beau papillon, donc on va peut-être pas le tuer.
Mmh. Ouais. Voilà. Oui, c'est sûr. Oui, effectivement, c'est ça en fait. Bon, les papillons, moi je les vois pas forcément, on est en plein centre-ville, hein, mais il doit en avoir puisqu'il y a des chenilles.
Hein. Bien sûr.
Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est surveiller régulièrement.
Donc, conclusion aussi, un peu d'insecticide bio, c'est ce que vous disiez ?
Oui, quand on a une attaque assez carabinée de chenilles, oui. On a par exemple la chenille du buis qui fait beaucoup de dégâts, je dirais, du Grand Est jusqu'à Marseille, parce que maintenant, elle y est aussi, hein, sur les buis de Marseille. Là, on utilise une bactérie. Donc un insecticide bio qui est assez efficace sur les chenilles.
Est-ce que c'est bon pour vous, Luc, au niveau de la réponse ?
Eh bien, écoutez, c'est parfait, hein. Je ne m'attendais pas forcément à une réponse miracle, mais bon, surveillez surtout les plantes et voilà, évitez. Puis je vais vous envoyer une photo de ma fameuse plante verte, ou alors je vais retrouver le nom, ce sera peut-être plus facile.
Bah, si vous retrouvez aussi.
À l'occasion, en effet, faites-le, Luc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Ok, à
merci.
Très bientôt.
Belle journée.
Très belle journée, au revoir, Luc.
Merci, au revoir.
Et puis on peut conseiller aussi peut-être faire une collection de papillons, ça peut être sympathique
oh.
aussi pour... Mais non mais pas mort, mais vivant quoi, une collection de papillons.
Comment veux-tu faire une collection
serre,
de papillons
enfin, bref, bon,
oh, non,
mauvaise
c'est,
idée.
C'est une mauvaise idée, ne
bon.
La retenez pas.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning. Positif Morning.
Toute dernière ligne droite avec notre invité Patrick Makovka et je crois, très très rapidement Patrick, qu'on va parler d'un livre un petit peu insolite.
Ah c'est moins qu'on puisse dire. Imaginez, pipi au jardin.
Oh. Oh.
Non.
C'est ce qu'on faisait étant petit sans que les parents sachent.
Ouais, ouais.
Voilà. Voilà. Alors.
Ah bah dis donc.
Très 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 sérieusement, j'ai un ami, il s'appelle Renaud Delouz, qui a rédigé un ouvrage, c'est déjà la deuxième édition, aux éditions Terran. L'urine de l'or liquide au jardin. Et c'est un merveilleux bouquin qui fait prendre conscience de...
La valeur
de l'urine qui est ni plus ni moins que de l'azote. Et l'azote, ça fait pousser beaucoup de plantes. Et c'est aussi plus, à longue échéance, c'est un problème écologique qui va consister à traiter, comme les agriculteurs le font avec les lisiers de cochons ou de bovins, à traiter nos déchets à nous, êtres humains, sur la planète. Aussi nombreux nous soyons, il va falloir s'en occuper.
Extrait du tout dernier album de Lauren Daigle, You Say, que vous avez découvert chez nous, sur Phare FM. Moi aussi, j'ai envie de me fendre d'une petite chanson, là, ce matin,
ah,
sans
non,
vouloir
Sandrine,
concurrencer
non.
Lauren Daigle. Fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Tu connais, toi, ça aussi.
Je connaissais
fais
absolument
pipi
pas.
Sur le gazon pour
moi
embêter les limaçons.
Ça part en sucette, cette émission.
Alors,
ouais.
C'est pour dire que maintenant... Patrick Makovka, qui est jardinier, qui est avec nous jusqu'à 10h. Maintenant, Patrick, on va pouvoir faire pipi dans le jardin sans se faire gronder, puisque oui, c'est bon pour les plantes.
C'est bon pour les plantes. Alors, les garçons auront toujours plus de facilité pour faire pipi dans le jardin. Mais trêve de plaisanterie, on va parler d'un ouvrage qui s'appelle... l'urine de l'or liquide au jardin.
Ouais.
Et ça a été écrit par un type tout à fait sérieux, Renaud Delouz, qui est un ingénieur et qui travaille en France, hein, qui est producteur de plantes et qui a mis au point ce bouquin et cette technique. Ça fait maintenant 5 ans qu'il travaille là-dessus. Et là, c'est relativement abouti, c'est même très abouti parce qu'il a eu quelques parutions dans la presse scientifique. Donc c'est validé, on va dire. Et ça pose sérieusement, tout en rigolant avec de l'humour, un problème écologique planétaire qui est le traitement de nos
déchets
et de nos urines et de tout ce qui est issu de nous, êtres humains. Hein, on est quand même quelques milliards sur la planète et si on le fait pour l'agriculture avec les élevages porcins par exemple en Bretagne, et ben on doit aussi s'occuper de ça pour nous et c'est un moyen d'alléger le coût du traitement de nos eaux usées.
Alors
évidemment.
On parle pas juste de dire bah voilà allez dans un coin et faites pipi ici, il y a plus de choses là-dedans. Hein.
Ben oui, alors j'ai pris deux exemples parce que le bouquin il fait 80 pages. Il y a vraiment, c'est étayé, c'est éprouvé. On a des tests comparatifs avec urine, sans urine, avec de l'urée qui était un engrais industriel pour pouvoir étudier et comparer. Alors je vais prendre juste deux exemples, tout bête. Alors une méthode de fertilisation de fond d'une durée de 2 mois. On va tout simplement écoutez bien, hein. Je suis pas sûr que quelqu'un va le faire, mais écoutez bien. On verse 3 litres d'urine non diluée dans le sol à 1 à 2 semaines avant les plantations.
D'accord.
Et ça va nourrir pendant un certain temps les végétaux qui sont en place et ceux que nous allons planter. Parce que si on le fait 15 jours avant plantation, croyez-moi que cette urine qui est de l'urée, de l'ammoniac, va se dégrader pour être assimilée par les plantes. Et dernière chose... pour des méthodes de fertilisation d'entretien, alors là c'est plus facile, deux verres à bière,
faut pas le voir du coup, faut pas sonter.
Dilué dans un arrosoir.
On fait pipi plus vite.
Voilà, 2 fois 25 centilitres d'urine dans un arrosoir de 10 litres et on verse ça sur 1 mètre carré et là dans le potager.
Ah oui, dans le potager.
On a bien dit c'est de l'azote, ni plus ni moins, c'est de l'azote. Donc les plantes le mangent et elles en ont besoin.
Bon, bah
c'est
voilà.
Absolument incroyable. On peut juste donner rapidement la référence de ce livre, le titre, l'auteur.
L'urine de l'or liquide au jardin de Renaud Delouz aux éditions Terran.
Merci beaucoup Patrick
Makovka. On est très raccord, Nathanaël. On arrive vers la fin de notre émission.
À la fin tout de suite. On se dit dans un mois, Patrick.
Dans un mois.
Merci.
On parlera donc de l'hiver qui approchera à grands pas, très probablement.
Oh oui.
Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de l'autre côté de la radio. Très belle journée avec Phare FM. À demain 6h.